m'appelle Franck Cassanti, je fais des films, et puis, mais surtout beaucoup de musique. Mais alors, est-ce que ce sont des métiers? Je crois que ce sont plus des passions. C'est les films et la musique, donc je fais beaucoup de films sur la musique. Donc ça permet de réunir les deux passions. Et là, je viens de finir un film. Alors on dit toujours que le dernier film, c'est le plus beau qu'on ait fait, mais celui-là, j'ai vraiment rêvé de le faire, ce film. C'est un film sur un musicien qui habite à New York, mais ses parents sont des... alors, là aussi, il y a eu un adolescent qui était fantastique, c'est André Schwarzbart. À 15 ans, c'est l'occupation à Paris, c'est les nazis, ses parents sont déportés, et il rentre dans la résistance, il a 15 ans, et il arrive à sauver ses frères et sœurs. Voilà. Et donc André Schwarzbart, quelques années après, donc à la libération, il est tout jeune, quoi. Il a 16 ans, il suit des cours, mais il travaille aussi, il fait des petits boulots, il travaille en usine, tout ça. Mais le soir, il écrit. Et en 1959, il publie son premier roman, qui est Le Dernier des Justes, et il a le prix Goncourt, et c'est un chef-d'œuvre qui raconte l'histoire un peu de l'odyssée du peuple juif jusqu'au camp de concentration d'Auschwitz. Et la mère de Jacques Schwarzbart, qui est ce musicien que j'ai filmé, c'est Simone Schwarzbart, qui, elle, est une écrivain antillaise. Alors là, je pourrais parler pendant des heures de cette histoire, parce que c'est une histoire extraordinaire, d'un jeune juif polonais qui va rencontrer une antillaise qui vient de Guadeloupe. Et ce couple-là va être un petit peu à l'image de ce qu'est le monde aujourd'hui, mais qui pourrait être le monde de demain, c'est-à-dire la créolité, la relation avec l'autre, ce qu'on appelle des étrangers. Hein. Et j'ai vu une affiche il n'y a pas longtemps qui disait « Il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde ». Voilà, donc ça c'est le dernier film que j'ai fait, vraiment. La voix des ancêtres, parce que il parle de ses ancêtres, à la fois juifs. Et en fait, c'est deux histoires. C'est l'histoire de la judaïté, le peuple juif qui rencontre le peuple africain, en fait. Et c'est deux histoires tragiques, mais qui vont donner un enfant extraordinaire, qui est Jacques, qui est musicien, un grand musicien de jazz, qui vit à New York. Voilà.
Immense musicien, merci beaucoup, c'était un très beau préambule en l'occurrence, et justement on en est arrivé là, mais si on fait un retour en arrière, on va revenir à votre adolescence à vous, et du coup quel genre d'ado étiez-vous?
Alors moi j'ai vécu mon adolescence au Maroc et en Algérie, et un peu dans l'insouciance au Maroc, j'habitais un quartier qui était un quartier juif, parce que je suis d'origine juive, et il y avait le quartier arabe d'un côté qui encadrait ce quartier, et puis il y avait le quartier européen. Donc j'étais au centre de quelque chose, de histoires, de cultures, et donc de ma fenêtre je voyais passer des fois les Gnawa, les musiciens Gnawa, qui sont les musiciens qui sont descendants des esclaves africains de l'Afrique de l'Ouest, et qui faisaient de la musique, et qui jouaient du tambour, qui dansaient. Et ça m'a beaucoup impressionné quand j'étais enfant, parce que c'était des parias en fait à l'époque. Aujourd'hui on connaît la musique Gnawa, mais à l'époque ils étaient diabolisés un peu, parce qu'on disait qu'ils étaient en relation avec le diable, avec les esprits. Et donc, moi, ça, sans comprendre, j'ai compris. J'ai compris quelque chose qui avait à voir avec la musique, mais avec la transe, avec quelque chose qui était mystérieux, quoi. Voilà.
Et une certaine spiritualité aussi, peut-être, déjà?
Et oui, et c'est ça, le mystère. C'est-à-dire en relation avec les esprits, en relation avec la transe. La transe, c'est faire venir à soi les esprits voilà. Enfin, je ne veux pas me rentrer dans les détails, mais là aussi...
Alors, déjà, de quelle ville on parle?
Alors, j'étais à Casablanca, je suis né à Rabat, mais c'était jusqu'en 58. Et à ce moment-là, là, le monde va changer, parce que moi, j'étais orphelin de père, donc ma mère rencontre quelqu'un qui habitait en Algérie, et donc on part en Algérie du Maroc. Et là, tout d'un coup, cet adolescent, qu'est-ce qu'il voit à la frontière? Des hommes en armes, et un climat très dur, enfin, les regards, on sent dans les regards. Donc le Maroc, c'est un pays, à l'époque, mais encore maintenant, très accueillant, très... Il faut savoir que les Juifs et les Arabes vivaient ensemble. Il n'y avait pas de différence dans certains villages. D'ailleurs, on ne pouvait pas les reconnaître. Ils étaient habillés avec des djellabas. Voilà, ils allaient... Donc, mon adolescence, c'est ça. C'est le Maroc, avec ses musiques, c'est les souks, où je pouvais me balader en toute liberté. J'adorais aller dans les souks. Voilà. Et là, quand j'arrive en Algérie, c'est autre chose. Alors, c'est aussi des musulmans, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est pas pareil qu'au Maroc, quoi. Et à ce moment-là, j'arrive en plein désastre, c'est-à-dire c'est la guerre d'Algérie, quoi. Avec des morts, il faut savoir que ça se finit dans mon école. Le maître d'internat me dit écoute, Franck ne reste pas du côté du labo de chimie, je fais sauter le lycée. Donc on est dans la guerre et dans la nuit, il fait sauter le lycée. Voilà, et puis j'ai vu des choses difficiles, quoi. Donc l'adolescence commence à se... Mais il y avait un refuge pour moi, c'est que je commence la musique à ce moment-là, dans le lycée où je suis. Et dans ce lycée, il y a un orchestre. C'est une tradition dans ces lycées. C'était dans un petit village qui s'appelait Délice. Donc, habiter à Délice, c'est déjà pas mal comme programme. Voilà, donc je suis dans ce lycée. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je dis que je suis musicien alors que je n'ai jamais touché un instrument de musique. Et là, les musiciens de l'orchestre me disent « t'as qu'à venir dans le local, on va jouer ». Et là, ils se sont rendus compte que je savais jouer de rien du tout. J'avais pas eu l'occasion. Et ils m'ont dit, tu peux rester pour balayer le local le soir quand tu viens. Et c'est comme ça que j'ai petit à petit commencé à remplacer le batteur. Parce que le dimanche, il y avait des balles dans le village. Donc le batteur avait envie de danser le passo doble. Et moi, je le remplaçais. Donc voilà, ça, c'était l'apprentissage de la musique.
Oh non, mais quel parcours. Vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé en Algérie?
Alors j'avais 13 ans et je pars, j'ai 16 ans, j'arrive en France, j'ai 16 ans. Ouais.
Alors justement, ça induit un petit peu la suite, justement. Est-ce que votre adolescence, elle a influencé votre parcours professionnel?
La musique, oui, on peut dire, ça s'est né là, à ce moment-là. Mais disons que le côté professionnel vraiment, qui est si on parle du cinéma, non, ça ne l'a pas influencé. Si ce n'est qu'au Maroc, il y avait des cinémas, il y avait une présence américaine au Maroc, et il y avait beaucoup de films américains, alors des séries B extraordinaires, tous les grands westerns, les films d'épouvante, enfin, des trucs comme ça, et moi j'adorais ça, et puis beaucoup les films de Jerry Lewis aussi. Donc un peu ce qu'on appelle série B, et dans ces cinémas il passait deux films en général. Il faut imaginer les choses, en Afrique ça existe toujours, on va au cinéma mais on mange des cacahuètes, c'est bruyant, on applaudit au générique, les acteurs, voilà, c'était une espèce de folklore. Moi j'ai adoré cette partie au Maroc où il y avait pour moi une liberté totale, sans aucune tension. Alors, quand on dit que ça n'a pas influencé, c'est sûr que ça m'a influencé parce que tout mon travail de cinéaste s'est ancré là-dedans, enfin...
Mine de rien. Ok, alors qu'est-ce qui vous a justement amené à faire du cinéma pour le coup?
Alors c'est pas du tout je veux faire du cinéma, c'est une passion, ça me ronge et il faut que je fasse. Non, pas du tout. Je m'occupais du ciné-club étudiant et dans ce ciné-club, c'était formidable. Il y avait beaucoup de metteurs en scène qu'on invitait et qui venaient parler. Moi, ça, je trouvais ça... Parce que quand on est adolescent, on va au cinéma, enfin moi en tous les cas, je m'asseyais, mais pour moi ce que je voyais sur l'écran, c'était vrai, quoi. Après, je me suis rendu compte que tout ça était fabriqué, hein, que sur un écran, il n'y avait rien en fait, c'était que... Voilà. Donc je pense que ce qui m'a amené au cinéma, c'est plus la politique en fait. D'ailleurs, mon premier court-métrage, c'est d'une certaine façon Godard qui l'a produit. Comme je m'occupais du ciné-club étudiant, j'avais dit à Godard, vous voulez pas venir présenter un film et avec la recette, on va pouvoir faire un film, je pourrais faire un petit film. Alors il avait dit oui, et puis en fin de compte, il n'est pas venu, mais enfin le public était là. Et avec la recette, j'ai fait mon premier court-métrage. Voilà.
Et qui était déjà engagé justement?
Le premier, non, il n'était pas engagé, il était très marqué par la poésie et puis par le côté science-fiction, par Chris Marker en fait, c'était un personnage, un cinéaste qui m'a beaucoup influencé. Alors, disons que 68 arrive là-dessus, et en 68, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans le sens de cette révolution, entre guillemets, hein? Je me suis dit, on va faire des petits films, des ciné-tracts, on appelait ça à l'époque. Voilà, donc j'ai participé un petit peu à ça, et c'est là que, à ce moment-là, que je rencontre des gens comme Chris Marker, enfin toute cette mouvance de cinéastes engagés, qui n'étaient pas engagés dans un parti, mais qui étaient engagés pour mettre le cinéma au service des luttes, au service des travailleurs. Enfin, c'était très utopiste et idéaliste, mais sans ça, on meurt, hein, s'il n'y a pas d'utopie, d'idéal. Donc voilà.
Et après, il y a aussi la rencontre avec Joris Evans et Marceline Loridan.
Ben vous savez tout sur moi.
Mais,
alors.
Voilà.
mais disons que si rencontrer ces grands cinéastes, ça marque. Donc après, oui, je suis assistant de Costa Gavras. Donc je rencontre des gens comme Yves Montand, enfin Costa Gavras, Samproun. Tous ces gens-là, ils sont aussi engagés. Donc moi, je suis jeune et ça m'influence évidemment. Mais je rencontre aussi le jazz et je rencontre Archie Shep à ce moment-là, un festival incroyable à Mougy en Belgique. C'est le seul, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule édition qui s'est passée dans la boue. Et donc il y avait Frank Zappa, il y avait des tas de musiciens, et dont Shep. Et là, je suis très impressionné par ce musicien que je vais rencontrer presque 20 ans après, quoi.
Alors du coup, justement, comment après se croisent les chemins entre la musique et quoi? C'est plutôt du documentaire, ce dans quoi vous orientez?
Alors au début, oui, ça a été des films documentaires. Un des premiers, c'était Bernard Luba. Après, ça a été Petrucciani, Shep, Sun Ra, Dizzy Gillespie, Max Roach. Puis après, enfin, jusqu'à aujourd'hui, disons, il y a une centaine de films quand même qui sont sur l'histoire du jazz. Enfin, là, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de films là-dessus. Enfin, Archie Shep va avoir 80 ans, là. C'est pas mal.
Est-ce qu'il y a encore un peu d'adolescent que vous étiez dans l'adulte que vous êtes devenu?
Alors, je crois que j'ai gardé ce côté de la curiosité et puis surtout de vouloir rencontrer. Et ça, je l'ai fait quand j'ai dit que j'étais musicien, parce que à des musiciens que je connaissais pas, mais parce que j'avais envie qu'il se passe quelque chose. Et ça m'arrive tous les jours, en fait. Donc
il y a une forme d'insouciance et une forme d'audace aussi là dedans
beaucoup d'insouciance, mais il faut
Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des ados qui voudraient suivre un parcours comme ça, un peu atypique ou similaire au vôtre?
Ben, je crois qu'on n'a qu'une seule vie, hein. Donc si on ne fait pas dans cette petite vie qui passe très très vite ce qu'on a envie de faire, je ne sais pas où et quand on pourra le faire. Donc il faut faire ce qu'on a envie, en fait. Alors ce n'est pas facile, hein, il faut s'accrocher, mais il faut vraiment faire ce qu'on a envie, hein, parce que même si on ne sait pas très bien ce qu'on a envie, mais en tous les cas, il ne faut pas faire ce qu'on vous dit de faire, quoi. Donc voilà.
Merci infiniment.